Quelle situation que celle de cet homme durant ces semaines interminables! Un philosophe cambodgien donnait à manger à de jeunes tigres pour que, devenus grands, ils ne le dévorassent pas. Tombé dans le dénuement, il se vit forcé de leur diviser des morceaux de sa propre chair. Quand il ne lui resta plus que les os, les nobles seigneurs de la forêt le quittèrent, l'abandonnant aux rougeurs immondes. Léopold, quelquefois, s'était souvenu de cet apologue barbare. Il s'était dit que ses tourments anciens avaient été bien inconstants, bien ingrats, de ne pas l'engloutir tout à fait et de livrer sa triste carcasse à la vermine. Que lui servait d'avoir eu un corps si fort, et que pouvait-il maintenant? Le temps est loin où on pouvait donner des coups de bâton au-dessous de soi, et il n'y a pas d'isolement comparable à l'isolement des magnanimes. Tout se déchaînait contre ceux-là. N'étant pas comme tout le monde, quels égards, quel respect, quelle protection, quelle miséricorde devait-il attendre? Au contraire des pères évangéliques et de ce que le Verbe crucifié a nommé le pain des fils, les lois répressives sont surtout au profit des chiens et des pourceaux. Ah, s'ils avaient été riches, tout le ventre autour d'eux eussent adhéré à la terre. On n'aurait pas eu assez de langue pour lécher leurs pieds. Léopold, qui avait autrefois jeté 1 million au désert d'Afrique, passa 20 jours et autant de nuits près du lit de sa femme, presque sans sommeil et sans nourriture. Partagé entre les soins à donner à la malade et l'épouvantable souci des expédients à imaginer pour que rien ne lui manquât, percevant avec une précision terrible du fond des ondes où il s'abîmait la brigante clameur du dehors, et tenté combien de fois de s'élancer en exterminateur sur cette racaille. Le dévouement de Joly sauva ces deux êtres si cruellement aimés de Dieu. L'excellent homme qui fit pour Léopold des démarches, des courses infinies, et partagea souvent avec lui l'écrasante fatigue des veilles. Il inventa des ressources, des combinaisons lunaires, des crédits invraisemblables, parut frapper de la monnaie à son propre coin. On ne voyait plus que lui dans les bureaux du Mont-de-Piété. La Providence elle-même n'aurait pu mieux faire. Pendant un de ses accès, Clotilde vit ce front chauve parmi les enfants que Jésus voulait qu'on laissât venir à lui. Un soir que la très chère avait pu s'endormir, malgré les cris habituels qu'elle finissait par ne plus entendre, Léopold, laissant la garde de la maison à l'ami fidèle, était sorti pour une démarche importante qu'il ne pouvait confier à personne. Un peu avant d'atteindre les fortifications, bien qu'il marchât d'un pas très rapide et que son attention ne fût sollicitée par aucun objet extérieur, tout à coup, il avait reçu par les yeux une commotion qui l'arrêta net. L'huissier Poulot était devant lui. La nuit tombait et le lieu était parfaitement solitaire. Le rosser d'une manière atroce eût été, pour l'opprimé, si voisin du désespoir, une joie facile, et telle avait été sa première pensée. Mais il avait eu assez d'empire sur lui-même pour se rappeler qu'il s'agissait d'un chacal de police correctionnelle et que la vengeance du misérable pourrait coûter définitivement la vie à Clotilde, en la privant tout à fait de sa présence et de ses soins pour un temps indéterminé. Étouffant donc sa colère, par un effort dont il avait cru mourir, il s'était approché du bélitre et d'une voix un peu tremblante. « Monsieur Poulot, avait-il dit, je crois inutile de vous faire observer que nous sommes très seuls et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous casser les reins, si c'était mon bon plaisir. Par conséquent, vous allez m'écouter silencieusement et avec respect, n'est-ce pas? Quelques mots suffiront. Je n'ai pas coutume de faire de longs discours à des gens de votre sorte. Vous savez ce qui se passe chez vous, je suppose. Vous n'ignorez pas que le péril de mort d'une femme que je ne vous ferai pas l'honneur de nommer est l'œuvre de votre ivrognesse de femme. Voici donc l'avis que je vous donne pour la première et dernière fois, en vous engageant à le méditer. Si la personne dont je parle venait à succomber, vous m'entendez bien, monsieur Poulot, j'estimerais que je n'ai plus rien à perdre en ce monde, et je vous jure que vous seriez plus en danger, vous et votre femelle, que si la foudre tombait sur votre maison. » Il l'avait quittée sur ces derniers mots, proférés avec un accent capable de les enfoncer comme des larmes dans les intestins du pleutre, qui, d'ailleurs, avait paru hors d'état d'exhaler le plus léger son. Mais, bientôt après, une tristesse immense était descendue sur lui. À quoi bon cette scène ? N'était-il pas au-dessous du rien, cet individu immonde qui ne pensait ou ne respirait que par la monstre de crasse et d'ignominie où il se vautrait comme dans un bourbier ? En supposant qu'il entreprit de faire partager à sa crapaude la sale peur dont il était visiblement pénétré pour quelques jours, il était, hélas, trop probable que celle-ci verrait là, surtout, l'occasion d'affirmer la supériorité de son courage, et se ferait une gloire nouvelle de braver un péril qui ne la menaçait pas un instant. Quelque poltronne qu'elle fût, et quoique vraisemblablement rouée de coups maintes fois dans les derniers jours, ses pratiques de gueuse effrontée avaient dû lui donner quand même le préjugé, si tenace chez les salopes, d'une immunité de droit divin pour l'insolence ou la méchanceté des femmes. Et quel ne devait pas être l'ensorcellement, la toute-puissance de persuasion de cette poulot sur le compagnon fétide et agenouillé dans la bouse de sa compagnonne, qui ne vivait que pour le régal d'ordures qu'elle lui servait, sans doute, chaque soir. Même en plein jour, il avait fallu subir leurs grognements, leurs bruyantes pâmoisons, leurs soupirs et leurs gémissements réitérés de leur vomitive luxure. Car ils ne fermaient pas leurs fenêtres et s'ébattaient chiennement derrière une jalousie. Ah, on avait entendu de drôles de choses. Puis, se disait Léopold découragé, ils sont si bêtes, si fangeusement ignares, si crétins. En dehors du trac puant que l'imminence d'une raclée peut déterminer en eux, que sont-ils capables de comprendre et comment pourraient-ils entrevoir seulement le danger de pousser à bout un individu tel que moi ? Alors cet homme de courage, ce partisan de l'impossible, ce chef téméraire qui avait assoupli le destin, cet artiste d'or crénelé de flammes, fut profondément humilié. Il sentit le néant de la force, l'inutilité de l'héroïsme, la désespérante vanité de tous les dons. Il se vit semblable à un de ces vigoureux insectes, buveurs de miel, enlacés dans les fils gluants d'une araignée. Ses efforts puissants crèvent en vain la toile impure. L'ennemi horrible, sûr de sa proie, bondit hors d'atteinte et ramène avec promptitude les mailles rompues de l'abominable filet sur le corselet brillant de la victime. Dès le lendemain, ce vaincu alla régulièrement communier à la première messe, et pendant 2 fois 9 jours, la bouche pleine du sang du Christ, voici le cri qu'il poussa. « Seigneur Jésus, je vous demande pour votre gloire, pour votre justice, pour votre nom, de confondre ceux qui nous outragent dans notre maison, qui nous haïssent, qui nous tuent, qui aggravent si cruellement et si injustement notre pénitence. » Puisque telle paraît être la forme définitive de l'hostilité du démon qui ferma si longtemps mes lèvres et que je n'ai rien à espérer d'aucun homme, c'est à vous, Jésus, caché dans l'Eucharistie et caché en moi, que je demande protection. Sans phrase ni détour, je vous demande, contre ces deux femmes, un châtiment rigoureux qui fasse éclater votre nom, c'est-à-dire un châtiment très manifeste qui rende visible leur péché. Je vous demande enfin que ce châtiment soit prochain. Et je crie cela vers vous, Seigneur, du fond de mon abîme, par la bouche de votre père David, par les patriarches et les juges, par Moïse et tous vos prophètes, par elle et par Enoch, par saint Jean-Baptiste, par saint Pierre et par saint Paul, par le sang de tous vos martyrs, mais surtout par les entrailles de votre mère. Faites attention, Seigneur Jésus, que je ne vous offre pas moins que ma vie en échange de cette justice, que je réclame avec toute la force que votre passion a donnée à la prière humaine. Lorsque Clotilde connut cette étonnante prière, elle joignit les mains, renversant doucement la tête, montrant son visage en pleurs, et ne dit que ces simples mots : « Les pauvres gens, les pauvres gens !» On se remit au travail. On reprit le livre interrompu pendant 3 mois et qui était l'unique ressource pour l'avenir, si Dieu voulait que de tels pauvres eussent un avenir sur terre. Comme auparavant, ce labeur fut interrompu fréquemment par la misère ou par l'angoisse. Mais l'admirable Joly, continuant son rôle de providence, on put se traîner le long de cette œuvre et commencer d'en apercevoir la fin. Depuis les 18 jours de la prière terrible, l'hostilité des voisins semblait frappée de paralysie, et Léopold attendait en paix, avec une effrayante confiance, la catastrophe. À la suite d'on ne sut quel incendie de torchon, les deux cochonnes se brouillèrent et la vieille Grand déménagea. Quelque temps après, on la trouva morte dans sa chambre, au bout du village, les entrailles rongées par son chien, un horrible molosse Véron qui ressemblait à sa maîtresse et qui avait un museau de brochet. « C'est le tour de l'autre maintenant, » dit tranquillement Léopold au facteur de la poste qui lui racontait la nouvelle. Ce mot, entendu par la Poulot qui n'était jamais bien loin, fut pour elle comme le signal de toutes les disgrâces de la fortune. L'huissier, compromis dans quelques fiascos, se vit forcé de vendre le mobilier de son salon. Même les reliques les plus chères, l'armoire à glace et le canapé de madame, qu'elle montrait avec tant d'orgueil, ainsi qu'un vétéran sa panoplie, disparurent, et le gracieux couple alla cacher dans Paris son humiliation. Pendant 1 semaine, on désinfecta leurs clapiers. La persécution était finie, plus que finie, car il se fit autour de Léopold une sorte de crainte vile et superstitieuse. L'accusateur, cependant, attendait encore. Il savait qu'il y aurait autre chose, qu'il devait y avoir autre chose, et que ce n'était pas pour cela seulement qu'il avait mis en gage le corps du Christ. Malheur à l'homme qui a des pensées divines et qui se souvient de la gloire dans le tabernacle des pourceaux, dit un soir druide revenu d'un pays lointain, et qui résumait ainsi toute une intérieure lamentation à propos de Marchenoir et de ses hôtes qui venaient de lui raconter leurs aventures. « Assurément, dit Léopold, après notre cher Caïn, tel est le cas de l'île de France dont nous n'entendons plus parler depuis longtemps. Qu'est-il devenu ?» Un flot de peine et de colère passa sur le livre ouvert du visage de ce bon Lazare. « Ce qu'il est devenu, ah, mes amis, on est heureux de croire à une justice qui n'est pas des hommes. Je dis cela pour chacun de nous. Mais ce pauvre Bohémond, en vérité, c'est par trop épouvantable. Comment vous ne savez donc rien ? Ah, c'est vrai, pardon, j'oubliais déjà que vous sortez à peine du couffre. Eh bien, voici, il meurt doucement dans les bras de Follentin. Follentin, ce peintre de plomb, ce grisailleur foireux, ce plagiaire du néant, ce bourgeois envieux et ricaneur qui pense peut-être que l'Himalaya est une idée basse, vous ne savez pas ce qu'il a fait ? C'est bien simple, il s'est rendu adjudicataire des derniers jours du poète, le client unique de son agonie. Nul ne peut le voir sans son ordre ou sa permission. J'entends nul de ceux qui seraient capables de l'avertir. Je sais bien que ce que je vous dis là est difficile à croire, mais ce n'est hélas que trop vrai, et vous voyez en moi l'une des victimes les plus stupéfiantes et les plus stupéfiées de ce système d'exclusion de tous ceux qui ont véritablement aimé l'île de France. Depuis 2 jours que je suis à Paris, j'ai bien fait 10 de tentatives à l'hôpital des frères Saint-Jean de Dieu, son dernier domicile, vraisemblablement, jusqu'à l'heure où on le portera au cimetière. Obstacles invisibles, portes infranchissables, c'est tout juste si mes cris d'indignation ne m'ont pas fait jeter dans la rue. « Mais, mon cher Lazare, » interrompit Léopold, « êtes-vous dans votre bon sens ? On ne confisque pas ainsi les personnes. La séquestration illégale dans un lieu public ? Voyons, mon ami, un peu de lumière. Patience, vous allez voir clair, à moins cependant que les larmes ne vous aveuglent. L'île de France est un séquestré volontaire, un séquestré par persuasion. Oh, cela remonte à plusieurs mois. La dernière fois que nous le vîmes ensemble, un peu avant mon départ, vous vous en souvenez, il se sentait déjà gravement atteint. Ce dut être environ le temps où Follentin se manifesta. Ces tableaux, au beau être exécrable, sa conquête de l'Île-de-France est un chef-d'œuvre, assurément. Vous savez si notre ami le méprisait, l'abhorrait. Certains mots de lui sur ce vitrier sont à faire peur. On n'imaginera jamais deux êtres aussi contraires, aussi parfaitement antipathiques l'un à l'autre. Mais que voulez-vous ? Bohémond, quoi qu'on ait pu dire, est surtout un sentimental. N'ayant pas, comme Marchenoir ou comme vous, Léopold, une règle rigide, un credo que n'ont pu faire plier les siècles, faussé par l'hégéléanisme et saccagé par les curiosités les plus dangereuses, parfois incroyablement privé d'équilibre, on l'a toujours vu sans résistance contre tout individu assez habile pour se prévaloir hypocritement d'un service réel ou d'un acte de bonté feinte. L'esquisse est ferme, dit Léopold. Il m'a semblé pourtant qu'il y avait en lui un railleur d'une rare vigilance qu'il ne devait pas être aisé de surprendre. D'accord, mais je crois que, vers la fin, cette faculté s'est émoussée. Quel que soit son mal, il meurt surtout de lassitude. Il était vraiment trop peu fait pour les négoces de ce monde, et la misère contre laquelle il fut toujours désarmé l'avait aux trois quarts détruit. Rappelez-vous ses inconcevables absences, l'impossibilité de fixer son attention quand il parlait à ses fantômes, la seule réalité pour lui. Je n'ai connu que Marchenoir qui put quelquefois dompter un instant sa chimère, et encore. Puis, faites-y bien attention, Follentin est un dénicheur de merles très subtil qui sut arriver au bon moment. Il s'empara d'abord d'un pauvre garçon très dévoué à l'Île-de-France et qui le voyait sans cesse. Celui-là, criminel sans le savoir, mit une si niaise persévérance à lui vanter les qualités d'âme du peinturier, tout en faisant le meilleur marché possible de ses ridicules et de ses infirmités d'esprit, que Bohémond finit par craindre de s'être trompé sur le personnage et consentit à le bien venir. Follentin, qui n'est pas avare, sut déployer un tact infini pour lui faire accepter des services d'argent, dont il savait que le besoin était fort pressant, n'attendant pas que le malheureux rêveur avoie ou trahît son embarras, dépassant même le désir secret de ce pauvre, avec une bonhomie, une rondeur parfaite. Le moyen était infaillible et réussit au-delà de toute espérance. Bref, abusant de la double détresse physique et intellectuelle de sa victime, dont il paraissait être le bienfaiteur, il parvint, à l'instar d'une maîtresse basse et jalouse, à éloigner tous les amis anciens, quoi qu'ils pussent faire, et réussit, Dieu sait par quelques pratiques de mensonge et de perfidie, à lui en inspirer l'horreur. C'est par la volonté formelle de Bohémond que je n'ai pu arriver jusqu'à lui. Or, cela n'est rien ou presque rien. Écoutez la suite. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que je n'ai pas dû accepter facilement la consigne. Pour tout dire, j'ai tenté de pénétrer de force. C'est à l'heure qu'on a fait donner la garde. À mon épouvante inexprimable, j'ai vu se dresser une abominable souillasse qui m'a déclaré n'être pas une moindre personne que la comtesse de l'Île-de-France, épouse légitime et in extremis du moribond, dont elle rinça 10 ans le pot de chambre et qui, naguère, dans un soir d'ivresse ou de folie, lui avait fait un enfant. N'ayant déjà presque plus de force et parfaitement isolé de tous ceux qui eussent pu penser à sa place, il avait fini par céder aux obsessions pieuses de Follentin, qui ne lui laissa pas entrevoir d'autres moyens de légitimer ce fils qui lui eût été si facile de reconnaître sans prostituer son nom à la mère. J'ai pu comprendre que l'aumônier de l'hôpital, religieux d'une bonne foi indiscutable, mais qui fut en cette occasion admirablement roulé, se chargea lui-même d'emporter les résistances dernières. J'ai donc pris la fuite et me voici noyé de chagrin, suffoqué par le dégoût. Un silence lourd suivit ce récit. À la fin, Clotilde murmura comme se priant à elle-même. « Rien n'arrive en ce monde que Dieu ne le veuille ou ne le permette pour sa gloire. Nous sommes donc forcés de penser que cette chose laide est en vue de quelques résultats inconnus et certainement adorables. Qui sait si le passage terrible de la mort ne sera pas rendu facile à ce pauvre homme par cette immolation préalable de ce qui était le principe de sa vie terrestre. Mais les menteurs se trompent eux-mêmes. Je ne serais pas étonné que M. Follentin crût avoir fait une action louable. » Hercule Joly, présent et silencieux jusque-là, intervint alors. « Monsieur Druide, je suis parfaitement étranger au monde des artistes, et j'ignore tout de leurs passions ou de leurs mœurs. Voulez-vous me permettre une question ? Quel a pu être le mobile de ce monsieur Follentin et quel a pu être son intérêt à désoler ainsi l'agonie de monsieur de l'Île-de-France ? Il est inconcevable qu'il ait voulu jouer gratuitement le rôle de l'un de ces démons dont c'est l'emploi de désespérer les mourants. » Brusquement, Léopold se leva. « C'est moi, dit-il, qui vais vous répondre. À la marche noire, si je le peux. Vous êtes un chrétien, monsieur Joly, et, je le crois, un homme de prière. Je n'ai donc pas à vous apprendre la définition sublime du catéchisme. L'envie est une tristesse du bien d'autrui et une joie du mal qui lui arrive. Nos psychologues peuvent déposer leurs analyses le long de ce mur, ils n'entameront pas le granit et le bronze d'une pareille démarcation. Il y a quelques années, je me présentai un jour chez Follentin, qui n'était pas encore le personnage radieux qu'il est devenu. À mon arrivée, il achevait la lecture d'un journal, qu'il jeta sur la table comme s'il se débarrassait d'une couleuvre, avec cet air d'ennui suprême et ce sourire à donner des engelures que vous lui connaissez, mon cher Lazare. Voici en propres termes ce qu'il crut devoir me dire. Quand une de ces feuilles me tombe sous la main, je vais tout de suite à l'article nécrologique, et si je n'y trouve pas le nom de quelqu'un de mes amis, j'avoue que je suis très désappointé. Depuis, je n'ai pu le voir ni entendre prononcer son nom sans me rappeler ce mot, bien plus spirituel qu'il ne le croyait lui-même, car son âme en fut éclairée pour moi dans ses profondeurs immortelles. Et je la vis en plein, son âme affreuse, telle qu'elle sera, sous des cieux nouveaux, dans 10 000 siècles. Il est fort possible, comme vient de le dire ma femme, qu'il ait cru faire, dans le cas de Bohémond, une chose héroïque. Il s'est donné certainement beaucoup de mal, et son désintéressement absolu n'est pas douteux. Le vrai envieux est le plus désintéressé, quelquefois même le plus prodigue des hommes. Il n'y a pas de divinité aussi exigeante que l'idole blême. L'Île-de-France est, sans doute, celui de tous les contemporains qui a dû le plus lui crever le cœur. Les disparates signalés, il y a quelques instants, par Druide, étaient entre eux infinis. Le très haut poète qui va mourir, qui meurt peut-être à cette minute, paraissait avoir reçu tous les dons, la beauté, le génie, la noblesse, l'absolu courage, la sympathie expansive et toute-puissante. Ses facultés imaginatives et lyriques en activité permanente et qui faisaient penser à ces feux errants du livre saint, mais surtout la promptitude archangélique de ses épigrammes, qui ne s'en souvient ? On peut à peine se figurer combien toutes ces choses déchirèrent un homme profondément disgracié, que les circonstances mettaient très souvent en face de son lumineux repoussoir. Il s'est vengé hideusement, ainsi qu'il lui convenait de le faire, et je crois en effet qu'il a dû déployer une habileté, une persévérance de démon. Le résultat en valait la peine, songez donc, à mener ce cygne noir que fut Bohémond, ce dernier représentant d'une race fière, d'une lignée quasi royale, à donner, fût-ce dans le crépuscule de l'agonie, à une tireuse de cartes de l'avoir, son nom magnifique, le contraindre à finir comme un libertin gâteux subjugué par sa cuisinière. Quelle revanche ! Vous verrez, mon bon Lazare, que nous ne pourrons même pas assister à son enterrement. Sans vous, je n'aurais même pas su que le pauvre garçon était mourant. En supposant qu'on daignât nous aviser officiellement de la cérémonie funèbre, ce qui est au moins improbable, il nous faudrait, n'est-ce pas, défiler à la façon des Sarmates vaincus, dans le cortège du triomphateur, marcher dans les larmes de la douairière, entendre en crevant de honte et de rage les discours humides où il sera parlé de l'ami de la dernière heure. Non vraiment, j'aimerais mieux, dussé-je me condamner à la famine, payer d'humbles messes pendant tout un mois dans une église solitaire.